Chapitre 7. Plus pur que l'or. La petite flotte de bateaux de papier que Sheldon avait si savamment lancée sur l'océan commercial eut un triste sort aussitôt après la disparition de l'amiral. Une traite tirée sur la compagnie à responsabilité limitée des bois d'acajou du Honduras arriva à sa première échéance. La traite fut retournée au tireur et le tireur était devenu introuvable. « Je n'ai pas vu Sheldon depuis une quinzaine », répondit Orcott au gentleman qui lui présenta la traite. « 15 jours sans s'occuper de ses affaires ? Il y a un mois qu'il ne paraît plus à son bureau. » Sa belle-fille a été très malade aux portes du tombeau et tout cela a singulièrement bouleversé mon patron. 2 docteurs venaient chaque jour à la maison. Tous les jours, je portais mes lettres à Mr. Sheldon et je prenais ses instructions. Un beau matin, la jeune dame s'est enfuie et mariée sans bruit. Aussi, je suppose que la maladie était feinte et que ces braves messieurs les docteurs ont fermé les yeux. Joué par eux tous, je suppose que Mr. Sheldon a été complètement mis dedans et qu'exaspéré, il est allé quelque part digérer sa mauvaise humeur. J'aurais désiré qu'il choisît pour cela un autre moment, dit le porteur de la traite. Mon associé et moi, nous lui avons escompté plusieurs acceptations. Il nous allouait une bonne commission et nous regardions tout papier émanant de lui comme aussi bon qu'un billet de la Banque d'Angleterre. Et maintenant, cette maudite traite nous revient par l'entremise de nos banquiers, avec cette annotation « s'adresser au tireur ». Chose fort désagréable, vous comprenez, et Mr. Sheldon est bien inconséquent de nous laisser dans un tel embarras. « Il aura oublié cette traite, je présume, » dit Orcott. « Un homme d'affaires ne doit pas oublier ces sortes de choses. Ainsi, Miss Halliday a fait un mariage clandestin, dites-vous. » Je me rappelle l'avoir vue quand j'ai dîné à Bayswater, une fort belle personne, et elle s'est enfuie avec quelques galants sans le sou, très probablement. Mais parlons de cette compagnie du Honduras, Mr. Orcott. Elle ne paraît pas avoir de bureau à Londres ? Je ne crois pas. Nous avons, je pense, de leur prospectus quelque part. Vous serait-il agréable d'en voir un ? Cela me ferait grand plaisir. Orcott ouvrit 2 ou 3 tiroirs, et après avoir cherché pendant quelques instants, il produisit les documents en question. C'était un très ronflant prospectus, promettant d'énormes bénéfices à recueillir par les intéressés des profitables opérations de la compagnie. Quelques noms d'hommes bien posés figuraient dans la liste des directeurs, et le président était le capitaine H.N. Cromie Paget. Le prospectus avait assez bon air. Mais le porteur de la traite impayée n'était pas en disposition de trouver beaucoup de satisfaction dans des phrases bien tournées et de nobles noms. « Je vais me rendre à Bayswater et voir si je puis avoir là des nouvelles de votre patron, » dit-il à Orcott. « Il n'était pas là hier quand j'y suis allé, et la servante n'a rien pu me dire sur le lieu où il s'est rendu, » répondit froidement le jeune homme. « En vérité, » s'écria le porteur de la traite impayée avec inquiétude, « voilà qui n'est décidément pas bien. Un homme d'affaires ne doit pas se comporter ainsi. » Il prit un cab et se fit conduire à Bayswater. Il arriva devant la belle villa gothique avec ses toits en pointe et ses cheminées sculptées, et sur les fenêtres du rez-de-chaussée lui apparurent les affiches d'un commissaire-priseur du West End, annonçant en grandes lettres que le bail de cette charmante habitation ainsi que le mobilier qui la garnissait, linge, livres, porcelaine, argenterie, gravures d'après les plus grands artistes modernes, des vins de choix, seraient adjugés le lendemain aux enchères publiques. La victime de Sheldon entra dans la maison et y trouva quelques hommes préparant tout pour la vente. « Que signifie tout cela ? » s'écria-t-il avec épouvante. « Un acte de vente, monsieur, au profit de messieurs Naphtali et Zabulon. » Cette réponse suffisait. Le porteur du billet revint dans la city. Une autre traite vint à échéance le lendemain, et avant le luncheon, on savait partout que c'en était fait du crédit de Sheldon. « J'ai toujours pensé qu'il était débordé, » disait-on dans un groupe. « C'est le dernier que j'aurais supposé voir mal finir, » disait-on dans un autre. Vers la fin de la journée arriva la fatale proclamation. Philip Sheldon est en fuite et ne paiera pas ses différences. Le même jour apporta une terrible révélation à George Sheldon de Gray's Inn, sollicitor, généalogiste et chasseur de succession. La réclamation officielle adressée à la couronne à la requête de Gustave le Noble fut signée par messieurs Dashwood et Vernon de Whitehall. Et George Sheldon découvrit qu'entre Charlotte Halliday et la fortune laissée par John Haygarth se dressait un prétendant dont les droits primaient les siens et que par conséquent, toutes ses peines, tout l'argent qu'il avait avancé étaient de la peine et de l'argent perdus. « C'est à se couper la gorge !» s'écria George dans la première exaltation de son désappointement. Il monta à sa chambre à coucher, prit un rasoir et tâta la surface rugueuse de son cou, l'esprit absorbé dans ses réflexions. Mais le rasoir était émoussé, la peau de son cou lui parut trop coriace, et il arriva à cette décision que l'opération était une affaire qui devait être différée. Il apprit le lendemain que son frère était en fuite et que, selon son expression, il laissait dans la City un joli nombre de poissons dans la poêle à frire. « Sur ma parole, mon frère et moi, nous semblons avoir conduit nos porcs à un drôle de marché, dit-il. Mais quelque part qu'il soit allé, je parierais bien qu'il a emporté une bourse bien garnie. C'est égal, je ne voudrais pas avoir ce qu'il a sur la conscience pour toute la fortune des Rothschild. » Il est assez triste de voir le visage de Tom Halliday comme il m'apparaît quelquefois. Qu'est-ce que cela doit être pour lui ? Un peu moins d'une année après, les jaunes moissons s'agitaient sous la brise dans les plaines de la Normandie. Les fruits mûrissaient dans les vergers, les touristes se baignaient dans les eaux de la belle plage de Dieppe, les chevaux et les jockeys se rompaient les os dans les steeplechase normands, et d'enragés joueurs perdaient leur argent à tous les jeux frivoles qu'offre l'établissement de Dieppe. Et là-bas, au cœur de la Normandie, au-delà des hauts clochers de Rouen, une heureuse famille était réunie au château de Côtenoir. Une heureuse famille, deux heureuses familles, devrions-nous dire. Mais elles étaient si bien unies par les liens de l'amour et de l'amitié qu'elles semblaient n'en former qu'une. Là se trouvaient Gustave et sa jeune femme, Diana, ayant à leur côté deux grandes demoiselles. Puis Valentin, le jeune auteur en réputation, et sa charmante femme, Charlotte. Plus loin, sur la terrasse, deux nourrices portant deux bébés, à cette période peu agréable de l'enfance, où il faut constamment les promener au grand air en les berçant dans ses bras pour obtenir une apparence de tranquillité. Mais, aux yeux des deux jeunes mères et de leur père, fiers de leur paternité, ces petites créatures, dans leurs longues robes blanches, semblaient des anges trop beaux pour cette terre. Les âges réunis des deux bébés ne donnaient pas un total de 6 mois, mais les mères avaient compté toutes les phases graduelles de ces jeunes existences, et il leur semblait qu'il n'y avait pas pour elles d'épargne antérieure à la naissance de leur fils. Tant elles étaient sous l'empire des folles idées qui s'emparaient du faible cœur des mères. Mrs. Hawkehurst avait amené son fils pour lui faire voir sa tante Diana, car Diana avait insisté pour que ce titre lui fût décerné par lettre patente. L'enfant de Mademoiselle Lenoble était une fille, et dans ce fait, les deux amies voyaient une intervention manifeste de la Providence. « Ne serait-ce pas charmant si, en grandissant, ils s'éprenaient d'amour l'un pour l'autre et s'ils se mariaient ensemble ?» s'écria Diana. Charlotte déclarait qu'un pareil événement semblait en quelque sorte présagé par la conduite présente des deux enfants. « Il la connaît déjà !» s'écria-t-elle, en regardant au dehors la petite créature avec sa longue robe de mousseline blanche que la nourrice promenait sous le ciel bleu. « Et tenez, leurs plaintes se répondent, car j'entends leur vagissement plaintif. » Et les deux mères s'élancèrent vers la terrasse et allèrent contempler leur trésor avec idolâtrie, jusqu'au moment où ils furent saisis d'un de ces accès de douleur mystérieuse auxquels sont sujets les enfants au maillot, et où, pour calmer leurs cris, il fallut les rendre à leur nourrice. « Cher ange, » dit Gustave en parlant de sa petite fille, « elle a le même cri que Clarisse à son âge, un de ces cris perçants qui vous pénètrent jusqu'au cœur. Te figures-tu que ta voix était aussi perçante que cela, ma belle, dans ce temps-là ? Il embrassa la charmante enfant qui courut rejoindre la procession qui suivait les deux enfants, les nourrices alarmées, les mères presque folles, les bébés criant et les deux jeunes filles tout inquiètes. « C'est un vrai tourbillon, » dit Gustave à Valentin. « Ces femmes, comme elles aiment leurs enfants !» Et il récita ses vers. « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. » Tout avait bien marché pour le noble. Sa descendance directe de Matthew Haygarth, père de l'intestat, avait été prouvée à la satisfaction des conseillers de la couronne et de la haute cour de chancellerie, et dans les délais voulus, il avait été mis en possession de la succession du révérend intestat, à la grande joie de ses sollicitors et de M. Fleurus, et au grand dépit de Georges, qui renonça pour jamais à s'occuper de recherches généalogiques et retomba le cœur aigri sur les plus maigres profits qu'il pouvait espérer de ses opérations d'escompte, et se faisant le champion des pauvres plaignants de toutes les classes, de la demoiselle qui se considérait comme trahie par un infidèle amant et qui fournissait des preuves de la nature la plus scabreuse de son inconstance, du piéton qui, s'étant frappé contre un volet en saillie, revenait directement chez lui pour y rester pendant 12 mois dans une incapacité complète de travail, de corps et d'esprit, et qui réclamait pour ce fait une forte indemnité du propriétaire du fatal volet. C'est à cette noble protection des droits du faible que Georges voit son intelligence. Et quand de malicieux ennemis stigmatisaient ses essais de donquichottisme en les qualifiant de spéculation, ou quand il succombait dans la défense de quelques demoiselles opprimées à raison de l'insuffisance de preuves résultant d'une correspondance trop vague et que le juge lui disait « Vous devriez être honteux de porter une pareille demande devant la justice. » Le généreux sollicitor cherchait sans doute sa consolation dans le témoignage de sa conscience et quittait la cour la tête haute pour aller se mettre en quête de quelque nouvelle demoiselle opprimée ou de quelque autre passant blessé. Quelques petits profits advint à Sheldon de Gray's Inn de la succession Haygarth. Car à la demande de Lenoble, messieurs Dashwood et Vernon lui envoyèrent un chèque de 1000 livres comme prix des recherches auxquelles il s'était livré dans le principe et qui avait mis l'astucieux capitaine sur la bonne piste. Il écrivit une lettre de remerciement à Lenoble après avoir reçu ses honoraires. Il est toujours bon de se montrer reconnaissant envers un homme riche. Mais au fond de son cœur, il exécrait l'heureux héritier des millions de la succession Haygarth. Hawkehurst n'était pas aussi véhément dans l'expression de ses sentiments que l'expansif Normand. Mais au fond de son cœur, le sentiment du bonheur n'était ni moins pur ni moins exalté. La Providence lui avait accordé plus qu'il n'avait jamais osé espérer. Non pas les millions d'Haygarth, non pas une vie d'oisiveté luxueuse et les fêtes du derby, et les grands dîners et les loges d'opéra, et les équipages attelés de chevaux à 500 guinées la paire. Il n'avait pas un palais dans Belgrave, un pavillon de chasse dans les montagnes d'Écosse et une villa à Cowes. Rien de tout ce qui lui aurait paru jadis le bien suprême. Mais une belle rémunération de son travail, une jeune femme qu'il adorait, et un intérieur tranquille. Pour lui non plus, ses recherches dans les archives poudreuses pour retrouver les héritiers de John Haygarth n'avaient pas été tout à fait infructueuses, pécuniairement parlant. Gustave avait insisté pour qu'il acceptât, à titre d'honoraire, les 3000 livres qui lui avaient été promises par Georges comme récompense en cas de succès. Le capitaine n'aurait jamais été mis sur la bonne piste s'il ne vous avait pas subtilisé vos secrets, dit le fils et héritier de Suzanne Meynell. C'est à vos recherches que je dois cet héritage, et vous ne pouvez refuser de recevoir le prix convenu comme rémunération de votre travail. Valentin ne refusa pas cette récompense bien gagnée, pas plus que la donation faite en faveur du fils de Charlotte. Il lui semblait qu'il n'y avait que justice à ce qu'une partie de l'héritage revînt aux descendants de la plus jeune sœur et fidèle amie de la pauvre Suzanne. Avec ce capital de 3000 livres, sagement employé en achat de consolidés, et les intérêts du capital de 10 000 livres placés sur la tête de son fils, Hawkehurst commença la vie en sa nouvelle qualité de mari et de père dans des conditions assez agréables. Nous avons peu besoin de nous occuper ici de sa carrière littéraire. Il était au commencement de cette longue route poudreuse qui mène au temple de la renommée. Il nous suffira de dire qu'il trouva la marche assez difficile sur cette grande route poudreuse, et qu'il reçut plus de boue lancée par des assaillants sans nom cachés dans les haies qu'il ne l'avait supposé quand il en était aux premières étapes de son voyage. Heureusement, il rencontra sur sa route de bons compagnons et des encouragements bienveillants de la part du public, ce qui lui rendit possible d'accepter tranquillement la boue qui venait s'attacher à ses vêtements et de trouver légers les obstacles qu'il trouvait sur sa route. Le cottage à Wimbledon n'existait plus seulement à l'état de rêve. C'était une agréable réalité, l'orgueil et la joie de Mrs. Sheldon et de Nancy. C'était une pittoresque habitation, demi-cottage, demi-villa, située sur le bord de la grande route de Londres à Kingston, avec la vue sur le parc de Richmond des fenêtres du derrière de la maison. Un simple mur séparait les jardins de Hawkehurst de la propriété de la reine. « C'est comme une résidence royale, » disait Charlotte. Ce qui donna à Hawkehurst l'idée de donner à sa demeure le nom d'une habitation royale, et il l'appela Charlottenburg. Hawkehurst s'était assuré la jouissance de cette délicieuse résidence par un bail à très long terme. Et Charlotte avait apporté les plus grands soins à l'ameublement et à la décoration des jolies pièces qu'il a composées. La délicieuse activité de la chasse au bibelot fut, pour les heureux époux, une source inépuisable de plaisir. Chaque petite table excentrique, chaque chaise luxueuse avait son histoire spéciale et avait été le sujet de négociations et d'efforts de diplomatie qui auraient suffi à un Burleigh pour la réorganisation de l'Europe occidentale. Les tasses et les soucoupes de Dresde et de Vienne qui garnissaient l'étagère de bois d'érable avaient toutes été achetées chez un marchand différent. Les figurines sur la tablette de la cheminée étaient du vieux Chelsea, d'une qualité qui aurait fait envie à un Bernal ou à un Beaune, et n'étaient arrivées dans les mains de leurs heureux possesseurs que par la suite d'un concours de circonstances fortuites, dont l'histoire serait presque aussi intéressante que celle du collier de diamants de Bemer. Les rideaux du salon avaient drapé les portières de la belle Lady Blessington et avaient été achetés pour une misère par Valentin après avoir passé par les mains de nombreux marchands et revendeurs. Les chaises Louis XIV, recouvertes en tapisserie, avaient appartenu à Madame de Sévigné et avaient meublé cette triste maison de campagne d'où elle écrivait ses lettres les plus éloquentes d'esprit et de gaieté à son mauvais sujet de cousin, Bussy, comte de Rabutin. Ces inestimables trésors avaient été découverts dans un petit passage derrière la rue Vivienne, où le jeune couple s'était rendu bras dessous pour choisir un chapeau lors de leur premier voyage à Paris. La pendule de la salle à manger venait du magasin du même marchand, et elle avait été vendue avec la garantie qu'elle avait sonné les dernières heures que Maximilien Robespierre avait passées dans son humble logement chez le menuisier. L'encrier dans lequel Hawkehurst trempait sa plume avait servi à Voltaire et le buvard sur lequel il écrivait avait appartenu à Balzac. À ces fictions plus ou moins plausibles du revendeur, Mr. et Mrs. Hawkehurst avaient prêté une oreille complaisante et il leur semblait que ces objets, qu'ils avaient peut-être payés un peu cher, prêtaient un charme nouveau à leur demeure. L'arrangement et la surveillance de tous ces trésors donnaient du plaisir et de l'occupation à la pauvre Georgie. Mais d'autre part, elle considérait que la splendeur de son ancienne demeure de Bayswater, avec son mobilier tout neuf, était quelque peu supérieure à celle de tous ces objets d'art sortant des boutiques des revendeurs. Pour Nancy, les figurines de Chelsea, les porcelaines de Dresde et les vieilles gravures d'Albert Dürer n'étaient autre chose que les innocentes folies du maître de la maison, dont elle ménageait la bourse avec une aussi fidèle économie qu'elle avait fait pour l'ancien maître dont elle gardait un si cruel souvenir. On peut voir par là que Hawkhurst, avec une femme, une belle-mère et une vieille et fidèle servante, ne pouvait pas manquer d'être bien soigné, un peu gâté peut-être par excès d'amour, mais à l'abri des tentations auxquelles un auteur célibataire est supposé être exposé quand il travaille seul dans un solitaire logement du temple. Pour lui, les jours se passaient dans l'agréable monotonie d'un travail constant qui lui était rendu plus léger par la pensée de ceux pour lesquels il travaillait et par l'espoir d'arriver à se faire un nom. Il n'était plus un fabricant de livres, il avait écrit un ouvrage dont les produits avaient servi à meubler la villa de Wimbledon. Et il était occupé à écrire un second ouvrage destiné à pourvoir aux frais de sa maison. Il avait assuré sa vie pour une somme assez considérable, et il s'était montré en toute chose d'une prudence et d'une sagesse presque méticuleuses. Mais il avait laissé périmer les assurances faites par Sheldon sur la vie de Charlotte. Valentin n'aurait pas voulu d'un argent dont une tête aussi chère aurait été l'enjeu. Le cheval de selle que Charlotte aurait désiré pour son mari, la bibliothèque dont elle avait si souvent établi le catalogue, était encore parmi les joies de l'avenir. Mais la vie perd la moitié de son charme quand on n'a plus de désirs qui n'aient été satisfaits. Et le cheval que Hawkhurst devait monter plus tard, la belle bibliothèque qu'il se monterait, était le sujet favori des conversations de Charlotte quand elle se promenait avec son mari sur les hauteurs de Wimbledon quand sa journée de travail était terminée. Ces promenades du soir étaient les heureuses fêtes de sa vie. Il racontait tout à sa femme, ses rêves littéraires, l'idée encore dans le brouillard d'un livre à écrire, ses nouvelles découvertes dans le royaume sans bornes des livres, son enthousiasme, son culte des héros, dont il portait l'un au pinacle pendant qu'il démolissait l'autre, le plaisir peu chrétien qu'il avait pris à lapider le pauvre Jones dans sa revue du samedi, ou à écorcher vif Robinson dans le Bond Street, en un mot, toutes ces questions de boutique ne lassaient jamais l'excellente Charlotte. Elle l'écoutait toujours avec ravissement et sympathie, elle admirait ses favoris, elle accueillait ses amis et ses compagnons de travail avec une douceur qui ne se démentait jamais. Elle méditait l'organisation d'un fumoir qui serait un vrai paradis, un Alhambra en miniature. Et un visage maussade et renfrogné était chose inconnue dans la demeure de Hawkhurst. Une femme si douce, un intérieur si charmant, popularisait l'institution du mariage parmi les jeunes célibataires amis de son mari. Et cet être si maltraité et si calomnié qu'on nomme une belle-mère était presque réhabilité par la bonne nature de Mrs. Sheldon et son dévouement évident aux intérêts du mari de sa fille. Après toutes les recherches faites dans les archives poudreuses du passé, après les investigations patientes pour retrouver les empreintes laissées sur le sable par les pas de Matthew Haygarth, voilà quel était l'héritage de Charlotte. Un cœur dont l'innocence et l'affection faisaient de sa maison un paradis et prêtaient à la vie commune un charme que tout l'or de la Californie aurait été impuissant à répandre sur elle. L'héritage de Charlotte, c'était la nature tendre et sans égoïsme des Haygarth et des Halliday. Et, ainsi doté, son mari ne l'aurait pas échangé contre la plus riche héritière dont le mariage a jamais pu être annoncé dans le journal de la cour.